La Voix de l'Amérique vous propose maintenant un dossier spécial sur la République centrafricaine.
Bonsoir, ici Chérubin Dorcil en compagnie de Nathalie Barge pour ce segment spécial sur la Centrafrique. En République centrafricaine, les réactions se multiplient au lendemain de la mise en place d'un nouvel état-major des ex-Séléka à Bambari. L'archevêque de Bangui, Mgr Dieudonné Nzapalainga, a dénoncé le mutisme des autorités de la transition et le Premier ministre André Nzapayeke a promis de punir les auteurs. Le point avec Idriss Fall.
Depuis l'installation du nouvel état-major des ex-Séléka Bambari, de nombreuses voix s'élèvent pour dénoncer une tentative de partition du pays, y compris l'archevêque de Bangui, Mgr Dieudonné Nzapalainga.
Dans un pays, il y a un seul état-major, il n'y a pas deux. Et je me pose des questions, pourquoi deux états-majors dans un pays? Est-ce que le gouvernement est-il au courant de ce deuxième état-major? Est-ce que le gouvernement a-t-il validé dans un état-major? Est-ce que les forces étrangères aussi sont-elles au courant? Est-ce qu'elles ont validé aussi? Ce sont des questions que je me pose parce que le Centrafricain voudrait savoir et être au courant de ce qui se trame pour ne pas être le dindon de la farce.
C'est le même son de cloche du chef de gouvernement de transition André Nzapayeke qui lui aussi parle de tentative de partition du pays.
Comme vous, le gouvernement a suivi le communiqué de Ndélé qui crée une armée parallèle, met en place un état-major militaire, une gendarmerie et une police. Aujourd'hui, on nous parle de l'installation dans la ville de Bambari d'un état-major et de l'occupation des services de l'État par des forces irrégulières. Ces actes ne sont rien d'autre qu'une tentative de division du pays afin de faire main basse sur ses richesses. Selon l'article 20 de la Charte constitutionnelle de la transition, l'usurpation de la souveraineté par coup d'État ou par tout moyen constitue un crime imprescriptible contre le peuple centrafricain. Toute personne ou tout État tiers qui accomplit de tels actes sera considéré comme ayant déclaré la guerre au peuple centrafricain.
Aussi, de passage hier à Bangui, le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a indiqué que la Centrafrique est une et indivisible.
La France a toujours été opposée à toute forme de partition que ce soit. Il y a une République centrafricaine, elle doit retrouver totalement son intégrité. Ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule administration, celle qui est sous l'autorité de Mme Samba-Panza. Les choses sont très claires.
Notons que les combattants de l'ex-Séléka ont fermé depuis 48 heures les entrées et sorties de Bambari pour, selon eux, empêcher les infiltrations des anti-Balaka.
L'archevêque de Bangui s'inquiète de la création récente d'un nouvel état-major par les ex-Séléka. Après leur réunion à Ndélé, les anciens rebelles ont mis en place cette nouvelle direction militaire basée à Bambari. Idriss Fall a recueilli la réaction de Mgr Dieudonné Nzapalainga.
Alors, au départ, l'idée de se retrouver pour faire des propositions et trouver des solutions pour une voie de sortie était appréciable, mais le résultat, avec la conséquence que nous connaissons, ça veut dire parler maintenant de l'état-major, nous, on est tombé des nues. Dans un pays, il n'y a pas deux états-majors, il y a un seul état-major. Voilà pourquoi on se demande pourquoi il y a un nouveau état-major. Cet état-major a été voulu par qui? Sachant que Séléka étant dissoute, sachant aussi que Séléka est une force qui doit être désarmée, comme le stipule les résolutions de la Nations Unies, et sachant aussi que Séléka devait être cantonné, je me pose les questions pourquoi ce moment bien choisi pour maintenant annoncer un état-major et passer avec les armes devant les forces internationales et les forces nationales. Et moi, je me pose beaucoup de questions. J'ai interpellé la communauté nationale et internationale pour qu'on puisse nous aider à clarifier rapidement cette situation-là.
Mais ces rebelles qui se disent forces républicaines disent que c'est pour protéger les populations dans le Nord.
Je ne pense pas. Il revient au gouvernement. Il revient à la communauté internationale. Maintenant de protéger les populations. Et si le gouvernement et la communauté nationale n'arrivent plus à protéger les personnes, donc on aura eu un échec au mandat reçu. Le mandat reçu était de protéger les populations civiles et si jamais ils ne sont pas associés, quoique la proposition n'est pas la bienvenue pour protéger les populations. C'est la même réponse que je donne dans les zones où se trouvent les anti-balakas. Ce n'est pas aux anti-balakas de protéger les populations, c'est plutôt aux forces internationales venues, c'est-à-dire Sangaré, Miska, Lefort, pour protéger les populations. Et maintenant, avec l'intégration progressive plus tard des forces républicaines, c'est ces forces-là, les FACA, c'est ces forces-là qui peuvent proposer, mais et non les LRA, et non anti-Balaka, et non ex-Seleka.
Mais on a vu ce qui reste des forces armées centrafricaines qui étaient parties à la déroute et qu'on essaie de rassembler maintenant.
Oui, ces forces sont parties en déroute, qu'on est en train de rassembler, mais les forces internationales sont là. Il y a donc les forces nationales, vous avez les gendarmes, vous avez les policiers, vous avez les militaires. Aujourd'hui, eh bien, il revient à ces forces-là de se déployer pour protéger la population centrafricaine et progressivement voir aussi quelle ossature donner à l'armée centrafricaine, l'aider à reprendre son rôle pour défendre le peuple centrafricain. Parce qu'il y a eu une déroute, il y a eu aussi un traumatisme, il y a eu aussi des divisions. Tout cela, il va falloir les rassembler, que cette armée devienne une armée républicaine et non une armée ethnique, tribale, pour ne pas dire régionale.
Est-ce que vous pensez que la réconciliation sera possible? Comme vous dites vous-même, il y a eu beaucoup de blessures profondes.
Moi, je continue à croire que la réconciliation est possible parce qu'il s'agit, j'ai en face de moi des êtres humains qui peuvent aussi entendre le message de la raison. Ils peuvent aussi comprendre qu'on ne pourra jamais tomber plus bas. Et si nous sommes tombés plus bas, quelque part, nous avons joué un rôle dans cette descente en enfer. Donc le moment est venu de sortir tous ensemble, c'est-à-dire tendre la main à l'autre.
Monseigneur Dieudonné Nzapalainga, joint par Idriss Fall. Merci de rester à l'écoute. C'était Chérubin Dorsil et Nathalie Barge pour ce segment spécial sur la Centrafrique.
Et maintenant, un message international du gouvernement des États-Unis.
Le 1er janvier 2008, alors qu'il quittait les célébrations du Nouvel An, un diplomate américain et un citoyen soudanais, tous deux employés de l'Agence américaine pour le développement international, ont été abattus dans une embuscade à Khartoum, au Soudan. John Granville, âgé de 33 ans, travaillait sur des projets de démocratie et de gouvernance pour l'USAID en appui à l'accord de paix historique ayant mis fin à la guerre civile au Soudan. Abdelrahman Abbas Rahama, âgé de 39 ans, a joint l'USAID comme membre de l'équipe de réponse aux catastrophes au Darfour. 5 hommes ont été arrêtés et condamnés en rapport avec leur meurtre, mais 4 se sont évadés, 2 sont toujours en cavale et auraient été aperçus récemment quelque part en Somalie. Identifié comme le leader de l'attaque, Mohamed Makawi Ibrahim Mohamed est un ressortissant soudanais de 29 ans, aux cheveux noirs et aux yeux marrons. Il a des liens avec Al-Qaïda dans les pays des Deux Nils, un groupe soudanais complotant en vue d'attaquer des intérêts américains, occidentaux et soudanais. Abdel Bassit Al-Jad Al-Hassan Haj Ahmad a de son côté été identifié comme le second tireur dans l'attaque. Lui aussi est soudanais et serait âgé de 30 à 34 ans. Il a des cheveux noirs et des yeux marron foncé. Ils ont été désignés terroristes pour leur rôle dans l'attaque et le gouvernement des États-Unis cherche toute information les concernant. Le programme Rewards for Justice offre une prime allant jusqu'à 5 millions de dollars pour toute information pouvant mener à la capture de ces hommes. Les États-Unis garantissent que toutes les informations feront l'objet d'enquêtes et l'identité des informateurs sera gardée confidentielle. Si nécessaire, les États-Unis sont disposés à protéger ces derniers en les réinstallant ailleurs. Si vous avez des informations sur l'un ou l'autre des suspects, contactez le bureau régional de la sécurité de l'ambassade américaine la plus proche ou envoyez un mot au site internet Rewards for Justice à www.rewardsforjustice.net ou encore à l'adresse e-mail suivante rfj@state.gov.
C'était un message international du gouvernement des États-Unis.
Washington, la voix de l'Amérique.